Ciné Plus, Béatrice Malige.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Mais vous aimez Agnès Varda, et nous aussi, nous l'aimions, et voilà, donc on va lui rendre un hommage, puis comme vous le savez, hier, eh bien, nous l'avons enterré. Alors vous savez qu'il y a eu toute une journée autour de tous les films d'Agnès Varda à 7, puisqu'elle adorait 7, ayant quitté la Belgique au moment de la guerre avec ses parents, ils se sont réfugiés, ils ont pris la voiture, et ils sont partis au plus loin possible, et ils sont arrivés à 7, et évidemment, son premier film, tout le monde en a entendu parler, c'est La Pointe Courte, c'était avec Philippe Noiret, et puis ensuite, elle a mis, comme elle aimait bien le midi, elle est revenue avec notamment un film qu'on a revu il n'y a pas longtemps sur la 7, enfin sur Arte, c'était Sans toi ni loi avec Sandrine Bonner et qui a été tourné du côté de Lunel. Mais je vous parlerai plus particulièrement d'un film, c'était son premier long métrage, c'est Cléo de 5 à 7, c'est un film qui s'inscrit complètement dans la nouvelle vague qu'elle a partagée évidemment avec tous les gens de la nouvelle vague et notamment, chacun le sait, notamment elle a partagé sa vie aussi avec Jacques Demy, et c'est lui qui a réalisé, comme vous le savez, ses films musicaux comme Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, etc. etc. Et donc, je vous propose tout de suite d'entendre un interview, elle est toute jeune là, Agnès Varda est interviewée et on lui demande si c'est compliqué d'être réalisatrice quand on est une femme. Eh bien, on écoute sa réponse.
Est-ce qu'il est difficile pour une femme de réaliser un film, surtout de diriger une équipe masculine ?
Je crois que c'est un faux problème. Il y a pas... C'est difficile pour un homme ou pour une femme de faire un film, mais une fois qu'on a un contrat de metteur en scène, je ne crois pas que le fait d'être une femme pose la moindre difficulté.
Vous n'avez pas senti autour de vous une admiration, une jalousie masculine ?
Pas du tout, non. Non, pas du tout.
Avec Cléo de 5 à 7, qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Un documentaire, une étude psychologique ou bien simplement un portrait de femme ?
C'est plutôt l'idée d'un portrait de femme situé dans un documentaire. C'est-à-dire le documentaire décrivant autant la femme que son comportement personnel.
Est-ce que ce film répond exactement, enfin dans sa réalisation, à ce que vous en aviez imaginé au départ ?
Ah oui, c'est assez... Même le premier film que j'ai fait où j'ai l'impression qu'il y a très peu de décalage entre le projet et le film fini.
On a l'impression, enfin en tant que spectateur, qu'à un certain moment le personnage vous échappe, ou tout au moins que vous lui laissez une grande liberté.
Mais il est prévu aussi, quand on écrit un film, que le personnage aura sa propre vie, et que on ne peut plus tellement changer certaines choses, mais ça fait partie de l'écriture aussi, c'est l'écriture du scénario ça.
Est-ce à dire que vous concevez une certaine improvisation dans vos films ?
Ah non, pas du tout. Non, c'est... Bon, moi, je suis plutôt maniaque. Enfin, tout est préparé. Sauf, évidemment, les parties nettement documentaires, comme les cafés ou des choses comme ça. Mais on peut penser à un personnage longtemps à l'avance, si vous voulez, d'une manière intuitive, mais organiser ça en vue d'un film, très précisément.
Et puisque vous faites partie de ce qu'on appelle enfin le nouveau cinéma, ça englobe évidemment beaucoup de gens et beaucoup de monde. Est-ce que vous ne pensez pas que précisément l'une des caractéristiques du nouveau cinéma, c'est de donner l'impression que la caméra est en totale liberté ? C'est peut-être une simple impression.
C'est tout à fait une simple impression, car les 3 sur 4 des films du nouveau cinéma, même quand il y a de l'improvisation, le metteur en scène sait très bien ce qu'il fait faire à sa caméra. Improvisation ne veut pas dire lâcher la caméra, ça veut seulement dire se fier à l'inspiration du moment. Mais c'est une réflexion plus rapide, c'est tout.
Voilà, vous venez d'entendre donc des propos tout à fait intéressants de Agnès Varda. C'était dans les années 61-62, au moment où elle tournait justement son premier long métrage, Cléo de 5 à 7, dont je voudrais vous parler. Alors, c'est un film qui a eu un grand succès international, et en plus de ça, il avait une très très belle, avec une très très belle comédienne, Corinne Marchand. Et c'est donc un film qui... Vraiment réussi, on peut dire, dans sa filmographie. Et il y a notamment il y a une mise en abîme du cinéma, parce qu'à l'intérieur même de ce film, il parle, puisque je vous le disais tout à l'heure en préambule, on est dans la nouvelle vague, elle parle de nouveau cinéma. Eh bien, à l'intérieur de son film, il y a un projectionniste qui passe un film court qui s'appelle Les lunettes noires. Donc, vous voyez, mise en abîme du cinéma, c'est un film muet qui met en scène un certain nombre de noms de l'époque. Il y a Jean-Luc Godard et Anna Karina, évidemment. Il y a Samy Frey, il y a Eddie Constantine, il y a Daniel Delorme, il y a Yves Robert, il y a Jean-Claude Brialy. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment un petit bijou de film. Et tout ce film tourne autour des lunettes noires de Jean-Luc Godard, puisqu'il a toujours des lunettes noires. Et là, justement, il les enlève, voilà. Et donc, c'est un thème du regard qui est omniprésent dans le film Cléo de 5 à 7. Mais je vous propose, on va écouter tout de suite la bande-annonce du film Cléo de 5 à 7, film tourné en 62 par Agnès Varda.
C'est donc si grave.
J'ai vu le cancer. Elle est perdue.
Si c'est ça, je me tuerais.
Encore un truc pour qu'on te dise qu'on t'aime.
C'est elle, c'est vous, mademoiselle, moi qui aime tant votre voix.
Il me fatigue avec son emploi du temps, j'ai envie de le laisser.
C'est un cri d'amour.
Évidemment, il faudrait un peu de sentiment et je me demande.
Je t'interdis.
Toutes portes ouvertes.
Voilà, donc là vous venez d'entendre évidemment la chanson chantée par Corinne Marchand, musique signée Michel Legrand. Michel Legrand qui a travaillé beaucoup, comme vous le savez, avec aussi son mari Jacques Demy, notamment pour les films que j'ai cités, Parapluie de Cherbourg, Demoiselle de Rochefort et Peau d'âne, etc., etc. C'est donc un ami de toujours du couple Varda-Demy. Et donc, et en plus de ça, dans ce film, Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda, Michel Legrand joue son rôle. Il est là au piano et c'est lui qui joue au piano et qui accompagne Corinne Marchand. Alors, il faut dire que, je vous disais tout à l'heure, c'est un film sur le regard, avec les fameuses lunettes noires de Godard. Ça, c'est donc une parenthèse à l'intérieur du film. Mais ce film est vraiment... tourne autour du regard. Le regard, d'abord, dans la première partie, c'est Cléo de 5 à 7. Eh bien, elle est regardée dans les rues parce qu'elle s'est filmée en décor naturel, comme faisaient d'ailleurs tous les gens de la Nouvelle Vague, et c'est comme Varda. Varda est en train de tourner, eh bien, les gens la regardent en train de tourner. Et la deuxième partie, Cléo va mettre des lunettes, elle va mettre un disque, ça c'est très intéressant parce qu'elle rentre dans un bistrot, et elle met un disque. C'est une de ses chansons à elle et personne ne la reconnaît, personne ne la regarde. Donc on est encore dans une idée de regard. Et le seul qui l'aide, eh bien, c'est ce jeune militaire qui est joué par Antoine Bourseiller, donc homme de théâtre, comme vous le savez, et qui ne l'aide parce que elle est tout simplement une femme et non pas parce qu'elle est une vedette. Ça me paraît aussi très intéressant. Et donc, ce film, malgré cette maladie qui touche Cléo, est très léger et beaucoup de musique. Comme je vous le disais à l'instant, avec la musique de Michel Legrand. Alors le film commence, c'est une carte mancienne au début du film qui est filmée en plongée avec une voix off et puis un jeu de tarot et de couleurs. Et ça commence le film, donc il y a une sorte de naïveté pour faire comprendre au fond que la dame, Cléo, qui se fait raconter son passé, son présent, son futur, est fragile, superstitieuse. À un moment elle casse un miroir, oulala, c'est le drame, 7 ans de malheur, comme chacun sait, etc. Et puis, on va rentrer dans le présent, et dans le présent, on va, où plane d'ailleurs la maladie, parce qu'elle a passé, elle ne sait pas si elle va avoir un cancer ou pas, enfin, elle attend la réponse, c'est un film en noir et blanc. Et donc, c'est intéressant parce que aussi, le look de Cléo, il est très particulier, elle a une robe, elle est coiffée avec une choucroute, et puis elle a une robe, on dirait une robe de coccinelle, ça la rend complètement surfaite, complètement décalée, et par rapport à une amie qui, elle, au contraire, est dans sa nudité extrêmement libérée, magnifique et très vrai. Et donc, lorsque on va voir Cléo qui tout d'un coup enlève sa perruque, parce que c'est une perruque, parce qu'on ne le sait pas au démarrage, elle enlève sa perruque, elle troque son habit au fond, et cette robe, comme je vous le disais, un peu coccinelle, elle prend une robe noire, très sobre, et là, elle est comme nue, mais dans sa nudité à elle. Et c'est à ce moment-là que nue, elle peut rencontrer un homme avec qui elle peut être heureuse. Donc l'idée du regard est accentuée continuellement dans le film par le jeu des miroirs, des reflets dans les vitrines, notamment lorsque Cléo passe un long moment chez une modiste, elle essaie des chapeaux, vous voyez, c'est aussi couvre-chef, c'est quand même très intéressant. Et puis à un moment, alors qu'elle est là en train d'essayer ses chapeaux, dans le miroir et dans le à travers la vitrine, passe la garde républicaine dans les rues. Et ça, évidemment, Agnès Varda a choisi le passage de la garde républicaine pour non pas arrêter la caméra, mais au contraire filmer. Et donc, dans Paris, comme dans, dans beaucoup de films de la Nouvelle Vague, Paris est bien sûr un personnage à part entière. Pensez à Truffaut, notamment Les 400 coups, ou d'autres. Enfin, bon, on va pas faire la nomenclature, mais enfin, c'est vrai que Paris est omniprésent, puisque on tourne en décor naturel. Et donc, c'est un film aussi qui joue sur le temps. D'ailleurs, les chapitres sont même notés avec les heures qui se déroulent, parce qu'il y a une angoisse, comme ça, elle attend le résultat d'une analyse. A-t-elle un cancer ou pas ? Donc, ça dure exactement une heure et demie. Et c'est en même temps, le fait que ce soit, on parle du temps réel, ça dilate le temps, ça paraît encore plus long. On est évidemment dans l'attente d'un résultat, donc c'est bien vrai que le temps est relatif. Quand on est dans l'attente d'un résultat aussi dramatique, eh bien, les secondes sont très longues. Elles durent plus qu'une seconde, évidemment. Et donc, c'est ce que Agnès Varda appelle le temps subjectif. Et puis, il y a aussi le temps objectif. Ce dernier étant réel, précisé sur des réveils ou des horloges. Et on s'aperçoit que le temps est très vite, bien sûr, subjectif. C'est un temps aussi qui montre aussi le contexte de l'histoire. On entend une radio qui annonce des événements de l'époque, notamment le putsch d'Alger, avec les officiers qui vont partir en tôle, comme le commandant Robin, etc., etc. On entend Edith Piaf, on entend aussi la rencontre Khrouchtchev-Kennedy, voilà. Donc, mine de rien, c'est remis, évidemment, l'environnement historique, voilà. Et donc, alors, on pourrait penser, il y a eu des critiques qui ont été faites en disant que ça manquait peut-être d'unité, voilà, et puis, bon, c'est vrai qu'il y a aussi des phrases, mais ça, c'est très Nouvelle Vague, des phrases du style « tu as tort » et « le tortue ». Bon, ça, on dirait du Godard, vous voyez, ça, c'est les jeux de mollets, vous voyez, un peu comme ça. Et notamment, il y a des formules, qu'il croit savoir le pire, ne sait pas le meilleur, enfin bon, tout le monde, voilà. Bon, bref, donc voilà, c'est très sympa, et donc c'est pour ça que je voulais quand même me focaliser un tout petit peu sur ce film avec Corinne Marchand, Cléo de 5 à 7 de Agnès Varda. Et quand dernièrement, donc je suppose qu'on devait savoir qu'elle était au plus mal, parce qu'il y a eu beaucoup de films et notamment d'interviews, enfin, et de films qu'elle a réalisés sur elle-même, puisqu'elle a su faire des documentaires qui parlaient de son parcours, eh bien, on s'aperçoit que c'est une femme qui a beaucoup réfléchi, et c'est vrai qu'elle va nous manquer, parce que c'est quand même quelqu'un qui est d'une modernité, même à 80 balais, absolument exceptionnelle. Et donc, notamment avec son dernier film, qui d'ailleurs a eu aussi beaucoup de succès, et où elle tourne avec J.R. Et alors, à ce propos, justement, je voudrais vous faire entendre des réponses qu'elle donne avec J.R., et qui sont donc ce sont des réponses toutes récentes, donc c'est l'Agnès Varda telle que beaucoup l'ont connue, avec en plus, on la reconnaissait parce qu'elle avait une coiffure absolument improbable, qui était très drôle, c'est-à-dire elle avait comme une calotte de curé blanche avec le bout rouge, vraiment, voilà, elle passait pas inaperçue, hein, voilà. Donc, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas passé inaperçu. On s'écoute tout de suite donc cette interview qui a été donnée, où elle va parler. Notamment, elle va expliquer quel était le premier film qu'elle a aimé, la scène d'ouverture qu'elle a préférée, etc., etc. On y va. Alors, Agnès Varda, pouvez-vous nous dire quel est le premier film que vous avez vu ?
Je veux vous applaudir. Blanche-Neige et les Sept Nains. Quand c'est sorti, en 1936-37, au grand cinéma Métropole, place de Brouckère, à Bruxelles. Jusqu'à 25 ans, j'ai peut-être vu 10 films, alors. Je m'en souviens.
Incroyable. En noir et blanc, donc.
Mais non. Blanche-Neige, c'était en couleur.
Déjà la couleur, dans ton époque.
C'est impressionnant. Pouvez-vous nous dire quelle est la scène d'ouverture d'un film que vous préférez ?
Touch of Evil, de Orson Welles. Ils sortent de champ, ils re-rentrent dans le champ, et à la fin, boum, une bombe. Je pense qu'il dure 3 minutes. C'est une merveille d'ouverture de film.
Et quelle est votre scène d'horreur qui vous a traumatisé ?
Massacre à la tronçonneuse. Où il y avait un type avec une tronçonneuse qui courait après des jeunes gens. Berk.
Et votre plan séquence préféré ?
Il y en a beaucoup de beaux plans séquences. Ah, il y avait un film russe. Bon, laisse tomber la question, j'ai
c'est
pas...
C'est Cuba ? Ils sont jusque dans la piscine.
Ah, tu vois que tu connais bien le cinéma.
Votre scène musicale préférée ?
Certains moments des Demoiselles de Rochefort, où il y a un dialogue entre les filles et les camionneurs. J'adore cette chanson.
Les marins font de bons amants.
Marin ami, amant ou mari, les marins sont toujours absents.
Et une scène qui vous fait rire ?
Dans La moutarde me montonnait, dans des comédies comme ça. Oui, ça fait rire quand même.
Petit effet gaffe, n'oubliez pas, A, ici, vaut donc A, B, U, sinus de X, plus 2. Tout le monde a bien compris ?
Et pleurer ?
Ah, pleurer, il y en a beaucoup. Hein. Des mots, quelquefois. C'est Arletty et Barreau dans Les Enfants du Paradis. Alors, il marche comme ça, et il lui fait un compliment un peu idiot. Oh, cette lueur dans vos yeux.
Jamais je n'oublierai cette nuit, et la lumière de vos yeux.
Et elle dit...
Oh, la lumière, une petite lueur, comme tout le monde.
Une petite lueur, comme tout le monde. Je trouve ça tellement beau. C'est tellement le cinéma que j'ai voulu faire et que nous avons fait ensemble. Le côté une petite lueur, comme tout le monde.
Votre scène de bagarre préférée ?
Tu sais, quand ils se battent, que c'est une danse, il y en avait un, ils finissaient dans les bambous. Ce genre de bagarre qui devient onirique, quoi, c'est... Les vraies bagarres, je ne suis pas trop intéressée. Hein?
Tu tournes la tête quand c'est des vraies bagarres.
Oui, c'est vrai, je fais même comme ça.
Et ta punchline préférée ?
Dans Hiroshima, mon amour, Duras avait écrit un long monologue. Et puis finalement, ils ont tous dit que c'était trop long. Et alors, elle arrive devant le miroir et elle dit « On croit savoir, et puis jamais. »
On croit savoir, et puis non. Jamais.
Et le meilleur film de tous les temps ?
Un truc complètement intimiste comme Persona de Bergman. C'est même plus du cinéma, c'est un petit froissement d'âme, je crois.
Et votre western préféré ?
Rio Bravo, avec cette musique lancinante.
Get along, Cindy, Cindy, I'll marry you sometime.
Ah, c'est un beau film sur l'amitié, c'est beau.
Et votre bande originale préférée ?
Peut-être Delerue pour Le Mépris.
J'ai trop joli mes fesses.
Oui.
Et votre plan de conclusion préféré ?
Un film de Chaplin, je crois, où ils s'en vont sur la route tout doucement. C'est ça ? C'est quand les gens s'en vont que c'est bien. J'aime bien les fins saugrenues où ça s'arrête tout d'un coup.
Et oui, c'est une fin saugrenue qui s'arrête tout d'un coup et c'est Agnès Varda qui nous abandonne. Et donc, le film où vous avez reconnu la musique, c'était Les Temps modernes, où l'on voit en effet Charlie Chaplin avec... c'était Paulette... je me souviens plus de son nom, qui partait comme ça, tous les deux. Voilà, c'était un film magnifique. Eh bien, écoutez Agnès Varda, merci en tout cas de nous avoir apporté tant de choses dans tout le panorama du cinéma, je veux dire français, mais peut-être aussi international, puisqu'en plus vous avez eu un Oscar il n'y a pas longtemps et vous le méritiez. Donc merci, un grand merci et on ne vous oubliera pas. Merci Stéphane d'avoir participé à ce petit hommage qui est rendu à la grande Agnès Varda.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.